Bonsoir à toutes et à tous. C'est vendredi, c'est le Club des Idées du Grain. Nous sommes ensemble donc jusqu'à 19h. Les sondages n'ayant plus bonne presse, faisons parler l'audimat. Ils étaient hier soir 3 800 000 téléspectateurs à regarder le premier débat de la primaire de gauche, soit 1 800 000 de moins que lors du premier débat de la primaire de la droite et du centre en octobre dernier. Nette différence d'intérêt, c'est forcément un signe à quelques mois de la présidentielle. Pourra toujours incriminer la tempête Egon et les milliers de foyers privés d'électricité, donc de télévision, mais non, le compte n'y est pas. 3 800 000 téléspectateurs, ça dit, ça n'est pas si mal. Sauf qu'à écouter les commentaires qui furent produits pendant et après la soirée, on s'y est surtout ennuyé. Illustration au passage de l'hypocrisie des suiveurs qui réclament du fond mais ne s'intéressent qu'à la forme. Du fond, il y en a eu pourtant, sur la question du travail notamment, sa rémunération, sa régulation et sa raréfaction. Sur ce thème, les 7 candidats ont pu afficher leurs différences à défaut d'avoir vraiment le temps de les creuser. Mais une nouvelle confrontation arrive très vite, dès dimanche soir. C'est que le calendrier, vous venez de l'entendre, est serré. Le 29 janvier, dans à peine plus de 15 jours, le vainqueur de la compétition sera désigné. Il devra incarner et réunir la gauche, sans pour autant être le favori dans son propre camp. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron ayant choisi de ne pas participer à ce tour préliminaire. Alors à quoi va servir la primaire de gauche? C'est la question que nous posons à notre club de ce vendredi. Brice Couturier, bonsoir.
Bonsoir, Hervé.
Le tour du monde des idées du lundi au vendredi sur France Culture à 11h50. Anastasia Colosimo, bonsoir.
Bonsoir.
Enseignez la théologie politique à Sciences Po Paris. Sylvain Bourmeau, bonsoir.
Bonsoir, Hervé.
Le samedi à 13h30 sur France Culture, on écoute la suite des idées. La suite dans les idées, je vais avoir du mal ce soir, je ne sais pas pourquoi. Et Ludovic Pietenu qui est resté avec nous, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir.
Chef du service politique de la rédaction de France Culture.
Est-ce normal qu'une femme qui travaille dans un supermarché, par exemple, qui gagne 800 euros par mois à 20 heures par semaine, paye autant de CSG à 8% sur ses revenus au premier euro que vous et moi? La réponse est non.
Mais pardonnez-moi, mais j'ai l'impression que pour certains de mes concurrents, on a une vision de l'entreprise qui est très caricaturale, qui est encore la lutte des classes, patron contre salarié, et on ne pourrait rien améliorer autour de la table dans une entreprise. Je ne le crois pas.
Si l'on parle du revenu universel, il ne peut se mettre en œuvre que par étapes, et que cette étape des 400 milliards ne peut être qu'une étape de moyen et long terme. Aujourd'hui, nous parlons d'un revenu universel d'existence qui correspond à la réalité du travail tel qu'il est, pas tel qu'il fut. Et j'entends bien, moi, parler de la société telle qu'elle est, pas telle qu'elle a été.
La proposition de revenu universel que je fais n'est pas en rapport uniquement avec les 8 millions de pauvres et les 6 millions de chômeurs. Elle est sur l'ensemble de la société. Et contrairement à ce que disent certains entre nous ici, je dis que pour arriver à cela, c'est un mandat ou deux mandats. C'est progressif.
Et je propose, en effet, de redonner du pouvoir d'achat en continuant cette baisse d'impôts et par la défiscalisation des heures supplémentaires, parce que combien de salariés? Quand cette mesure est tombée en 2012, nous l'avions défendue, on dit mais on perd du pouvoir d'achat. Donc oui, quand on s'est trompé, il faut reconnaître une erreur et je fais cette proposition de rétablissement.
Quand j'entends certains candidats annoncer des dépenses supplémentaires, à tout va, je me dis que les politiques sortent le carnet de chèques de l'État et que l'étape d'après, c'est que les Français vont sortir leur carnet de chèques pour payer les impôts et les taxes supplémentaires qui vont venir éponger ces trous.
Je ne crois pas et je suis très inquiet du débat. Que la gauche pourra gagner et battre la droite si elle arrive en disant plus de croissance, plus d'emplois, 400 milliards de plus d'impôts et je vais taxer les robots. Si l'on additionne tout ça, ça veut dire qu'on ne veut pas battre François Fillon et ça m'inquiète.
Voilà ce que Jean-Christophe Francis, notre réalisateur, a retenu du premier débat de la primaire à gauche hier soir. On a essayé de faire comme sur TF1, c'est-à-dire de consacrer un temps à peu près identique de parole pour chacun des 7 candidats. Ce primaire, évidemment, ce débat de la primaire, il est beaucoup commenté, notamment dans la presse. Le Monde titre ce soir un premier débat sans vainqueur aux allures de tour de chauffe. Un premier débat sans vainqueur, est-ce que c'est une première analyse qui pourrait vous convenir, Anastasia Colosimo?
Oui, c'est très vrai. Enfin, on se rendait bien compte, par exemple, je pense que c'est pour ça qu'il y a eu pas mal de téléspectateurs pour la primaire de la droite, qui avaient effectivement, on cherchait véritablement un vainqueur. Il y avait déjà, pendant les débats, l'idée que quelqu'un se démarquait. D'ailleurs, Fillon s'est démarqué pendant les débats et il a ensuite gagné. Là, effectivement, on ne sait pas trop. Il y a les 4 grands candidats, on les appelle comme ça, et personne n'a trop fait la différence hier soir, c'est vrai.
Sylvain Bourmeau.
C'est difficile ce genre de on va sortir nos petits cartons, notre technique, notre sport esthétique, enfin bon, le truc du patinage artistique. Moi, c'est le caractère très scolaire de l'exercice qui m'est apparu hier. On avait l'impression, voilà, du grand oral. C'est pas du tout un débat. Et donc, j'ai envie de filer la métaphore scolaire parce qu'on a le sentiment que le proviseur ayant soudainement pris une retraite anticipée, il s'agit d'en trouver un nouveau. Donc François Hollande est pas là. Et donc, il y a des rôles. Alors, il y a deux professeurs, il y a Vincent Payon, l'agrégé, il y a Arnaud Montebourg, le pédagogue. Tous les deux sont dans une certaine aisance de la parole. Ils parlent bien, ils parlent précisément et l'exercice scolaire leur va très bien. Ils sont à leur place dans ce type d'exercice. Et puis, il y a le surgé, comme on disait, ou maintenant on dit le CPE, ce obnubilé par les questions de sécurité. C'est Manuel Valls, évidemment. Il est là avec son sifflet à la main. Et puis, on a le pion qui est déconneur, qui veut se mettre bien avec les élèves. C'est Jean-Luc Benhamias. Il est vraiment dans ce rôle du pion. Et puis, on a trois élèves. On a le faillot, celui qui vraiment va se tirer les pompes de François Hollande pendant tout le débat. C'est François de Rugy. Il est vraiment bien dans son rôle. On a la jeune fille appliquée, très scolaire, comme on dit, c'est Madame Pinel. Et on a l'étudiant un peu révolté, un peu militant, utopiste, rêveur, mais étudiant. C'est Benoît Hamon. Alors voilà, c'est un exercice de mauvaise foi que je fais là en campant ces rôles. J'exagère un peu, mais c'est quand même ce qui m'est apparu, moi.
Est-ce que vous avez vu la même photo de classe, Ludovic Piétenu, hier soir?
Je trouve que c'est effectivement... voilà, c'est effectivement subjectif, mais c'est drôle. Bravo Sylvain. Non, moi, c'est vrai qu'il n'y a pas de vainqueur. Pourquoi ? Parce que cette campagne est extrêmement courte. Et sans doute que hier soir c'était simplement le départ, le top départ, le début, et que donc forcément c'était un round d'observation. Moi j'ai beaucoup plus d'envie d'être devant ma télévision dimanche soir à 18h sur les chaînes info, même si on sait que traditionnellement, si on compare à la primaire de la droite, ce sera un débat nettement moins suivi. Il y avait eu quasiment deux fois moins d'audience cet automne. Voilà, c'est une campagne courte. C'est compliqué de la comparer à la primaire de la droite, parce que cette primaire de la droite, elle nous a occupés pendant plus de 3 mois. Là, elle est en train seulement de nous réveiller tout doucement depuis le début de l'année, au sortir des fêtes.
Ça peut aussi illustrer, Brice Couturier, la difficulté qu'il peut y avoir dans ce genre d'exercice, c'est-à-dire ne pas trop se diviser, parce que très vite, et alors là, particulier justement pour cette primaire de la gauche, très vite va arriver le moment où il va falloir rassembler autour de la candidature de celui ou celle, bon, on va dire que ça sera sans doute plutôt celui qui va remporter cette primaire.
Oui, d'autant que à la primaire de la droite, on pouvait savoir que celui qui sortirait vainqueur serait le candidat à la présidentielle, parce qu'il serait au deuxième tour. La grande différence entre la primaire de la droite et la primaire de la gauche, c'est que celle-ci ne servira en aucun cas à désigner le candidat de la gauche au deuxième tour, puisqu'on sait d'avance qu'il est éliminé. La gauche, aujourd'hui, celui qui sortira vainqueur de cette primaire fera environ 10% des voix, peut-être 5 s'il s'agit de Benoît Hamon ou d'Arnaud Montebourg selon les sondages. 5 ou 6% ou 10% maximum pour Manuel Valls.
Donc la primaire de gauche, elle sert à savoir qui on va envoyer au casse-pipe.
La primaire de la gauche, elle a une utilité politique. Il s'agit de savoir qui va prendre la direction du Parti socialiste après les élections. Mais donc, si vous voulez, ça intéresse beaucoup les électeurs socialistes et les militants socialistes. Mais le reste de l'électorat de gauche, il a déjà choisi ses candidats. Il a choisi Emmanuel Macron et il a choisi Jean-Luc Mélenchon. Alors, les sondages là-dessus sont parfaitement clairs. Donc, si vous voulez,
moi, je propose qu'on fasse. Besoin d'élections, Brice. Puisqu'on a déjà choisi.
Oui, vous verrez. Ça explique aussi pourquoi l'extrême faiblesse, qui a été remarquée par Eli Cohen dans un article de Telos ces derniers jours, l'extrême faiblesse des mesures préconisées par les différents candidats. Comme il le dit, il ne cherchait pas de réflexion sur le comment, sur les étapes, sur l'acceptabilité de la cohérence des mesures proposées. Il n'y en a pas.
C'est le titre du Figaro qui a été écrit hier... Seulement une heure après le début du débat.
Avant même la première coupure de la pub. La primaire de la Belle Alliance Populaire n'a pas pour objet de désigner un candidat qui peut gagner la présidentielle, encore moins un programme qui peut être mis en œuvre en mai. C'est l'éloignement des perspectives de pouvoir pour des dirigeants socialistes qui sont encore aux commandes, qui explique pour une large part les programmes et les positionnements. Donc si vous voulez...
Arrêtons-nous peut-être juste un instant, si vous le voulez bien, Brice Couturier, sur cette idée. Finalement, ce que vous nous dites, c'est que cette primaire, c'est presque un congrès du Parti socialiste. Absolument. Voilà, qui servirait à désigner qui va diriger la gauche, en tout cas la gauche socialiste, pour les années à venir. Vous en pensez quoi les uns et les autres, Sylvain Bourmeau?
Quand bien même ce serait une sorte de congrès du Parti Socialiste, c'est pas rien. Enfin, je veux dire, habituellement, c'est dans un congrès du Parti Socialiste que se désignait le candidat à l'élection présidentielle. Alors moi, je préfère qu'il y ait des congrès à ciel ouvert, des congrès devant un électorat quand même assez large. On verra. Hier, il y a eu... On pourrait aussi donner l'indice, il y a eu un peu moins de téléspectateurs que pour le premier débat de droite, mais enfin il y en a eu quand même pas loin de 3 millions, c'est pas tout à fait rien, ça a été la plus grosse audience des programmes télévisés hier.
Pas loin de 4 millions.
Ouais, pas loin de 4 millions.
3,8 millions.
Hein. 3,8 millions, donc c'est la première audience hein, de toutes les chaînes hier. Bon, c'est pas une catastrophe, c'est moins bien que la droite. Mais bon, donc,
enfin, regarder donc, la télévision, c'est pas voter exactement la même chose. Hein.
Non, mais bien sûr, mais on s'est servi de...
C'est un indice de l'intérêt.
On s'est servi de ces indicateurs pour anticiper en quelque sorte le succès en termes de mobilisation de la primaire de droite. Donc ça peut donner un indice sur le nombre de gens qui vont aller voter à cette primaire de gauche, qui se fait quand même, rappelons-le, dans une forme de précipitation du fait de François Hollande, hein, qui avait dicté son calendrier et dont les autres héritent aujourd'hui. Alors, moi je pense que cet exercice est intéressant, simplement pour rester sur les questions de forme de minutes, on parle de débat, c'est pas un débat, c'est-à-dire que le problème c'est qu'il y a 7 personnes qui prennent la parole. Au total, je crois que chacun avait la possibilité de parler 18 minutes, mais en fait de manière extrêmement fragmentée. Donc si on veut se faire une idée comme citoyen, comme électeur, de ce que pensent les uns et les autres de ces candidats à la primaire, je pense qu'il y a d'autres objets éditoriaux qui sont proposés par les médias, dans la presse écrite, sur les radios, ou qui nous informent davantage. Donc ce qu'on a vu hier, c'est plutôt une façon d'être, une façon de parler, une forme d'incarnation d'un rapport à la parole et à la parole politique, mais c'est pas tellement sur les questions de fond que des choses peuvent se dire dans un dispositif comme celui-là.
C'est vrai qu'il y a peut-être un malentendu, effectivement, sur la façon dont sont organisées ces confrontations médiatiques, Anastasia Colosimo. C'est-à-dire, est-ce que ça doit être du débat? Est-ce que ça doit être des exercices de profession de foi? C'est-à-dire, la première intervention de chacun des candidats, c'était effectivement la profession de foi. C'était peut-être pas le moment qui était justement le plus passionnant. Donc, c'est compliqué d'en faire un exercice qui finit par intéresser le plus grand nombre.
C'est très compliqué. Alors là, moi, je veux bien continuer et filer la métaphore sur l'exercice scolaire. Ça donne un peu l'impression d'une élection de délégués au collège. Effectivement, c'est assez...
Vous descendez au niveau du collège.
Non, mais c'est assez superficiel, artificiel. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de voir comment ça se passe aux États-Unis, puisque c'est des États-Unis que cette idée de primaire nous vient. Et aux États-Unis, en fait, les politiciens sont beaucoup plus des showman. Ils sont beaucoup plus habitués, en réalité, aux médias et à ce genre d'exercice médiatique. Et d'ailleurs, quand on regarde les débats américains, ils vont rarement dans le fond. Ils chiffrent pas. Enfin, c'est vraiment des grandes tendances. Et pourquoi est-ce que, du coup, là, on a un problème? C'est que, en fait, et là, je rejoins Brice Couturier. Lors de la primaire de la droite, on avait toutes les tendances de la droite représentées au moment du débat de la primaire. C'est-à-dire, on avait le plus à droite, c'était Poisson, et on avait en gros le plus à gauche de la droite, avec au choix Juppé ou NKM. Là, ici, en fait, on a le ventre mou, parce que le plus à droite de la gauche, aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron, et le plus à gauche de la gauche, c'est Jean-Luc Mélenchon. Ce ventre mou, c'est un peu difficile de comprendre. Alors, il y a effectivement des vrais débats qui ont été... des vraies questions qui ont été posées, le revenu universel, etc. Mais le problème, c'est qu'ils sont quand même à peu près d'accord. Et surtout, on a du mal à voir de grandes tendances. Parce que les grandes tendances, c'est Macron ou Mélenchon.
On pourrait parfaitement argumenter que Manuel Valls est beaucoup plus à droite qu'Emmanuel Macron. Donc, votre représentation...
Ou même Sylvia Pinel.
Oui.
Du même acabit que Macron.
Et même que NKM est plus à gauche que Manuel Valls. Donc, vous voyez...
Mais en fait, la question...
Il y a quand même des clivages très forts.
Bien sûr, il y a des clivages très forts, mais le problème, c'est qu'on n'a pas de très grandes tendances.
Et tous les clivages n'y sont pas.
Et tous les clivages n'y sont pas, surtout, parce qu'on n'a pas la gauche de la gauche, la super gauche de la super gauche, et enfin, voyez, donc c'est un peu, je trouve, compliqué.
Ludovic Rétenu.
C'est difficile de parler d'un congrès socialiste à ciel ouvert. Il faut quand même rappeler que c'est une primaire ouverte, et que donc il y a au moins 3 candidats qui ne représentent pas le Parti Socialiste, donc à la limite.
Mais les Verts n'y sont pas. Ils n'ont pas voulu y aller. Macron n'a pas voulu y aller non plus. Mélenchon non plus.
On est d'accord, mais il manque quand même pas mal de monde. Qui peuvent prétendre, théoriquement, dans un second temps, 2017-2022, on va dire, à incarner l'opposition.
Donc c'est plus ouvert que 7. Ça. Combien de gauche, Ludovic Piétenu, vous avez vu hier dans cette confrontation, alors qui est incomplète puisque toute la gauche n'y est certes pas représentée, mais est-ce que vous avez vu autant de gauche qu'il y avait de candidats, ou bien au contraire,
ben
justement,
moi je crois, ouais.
le fait
je
qu'il y avait énormément de qu'il pouvait y avoir des
je crois
similitudes
qu'il y a des vraies distinctions. On peut faire des blocs, on peut faire un moment de bourg, mais si vous regardez vraiment dans le détail, il y a des différences sur.
Bah, moment de bourg sur le revenu universel, justement, il y a une vraie divergence.
Sur l'Europe, le Hamon est beaucoup plus européiste, j'aime pas beaucoup ce mot-là, mais que Montebourg. Après Pinel, on l'a dit, c'est quand même l'hyper-libéral dans tous les sens du terme, sur tous les sujets. Donc ça, c'est une autre gauche. Et puis après, vous avez
Valls. Hyper-libéral, carrément.
Vous avez vu les cadeaux qu'elle fait aux entreprises, vous, qu'elle propose dans son programme.
Elle dit qu'il faut dédramatiser, en tout cas, voilà, les relations au sein de l'entreprise.
Oui, et puis libéral sur la PMA, etc. Donc elle est extrêmement. C'est Macron.
C'est la primaire de la gauche, ou c'est la primaire de la gauche et du
Val,
centre, comme il y avait la primaire
ça,
de la droite et du centre, Sylvain Bourmeau.
Non, mais je pense qu'autour de la table, on aurait, autant qu'on ait de représentations différentes de l'axe gauche-droite. C'est-à-dire qu'il faudrait, on pourrait faire cet exercice, nous demander aux uns aux autres de classer tous les noms de la gauche à la droite. On ne serait pas d'accord, on ne mettrait pas les gens au même endroit. Donc c'est très compliqué d'identifier des gauches. Moi, je pense qu'on peut quand même dire qu'à certains égards, il y a un bloc parmi ces 7 personnes. D'abord, il y en a 4 qui sont vraiment qui sont apparus comme des candidats. D'ailleurs, c'est pas un hasard, c'est ceux qui peuvent incarner le Parti socialiste après. Quand même un peu plus à l'aise, mais à l'intérieur de ces 4, il me semble qu'il y a un bloc de 3 qui est constitué comme par hasard par des gens d'ailleurs qui ont co-signé un livre ensemble, qui était un livre programmatique aux éditions Le Bordelot il y a une dizaine d'années, qui fondait le nouveau Parti Socialiste. Donc c'est Arnaud Montebourg, Vincent Peillon et Benoît Hamon, qu'évidemment entre eux il peut y avoir des désaccords. L'Europe et pas un des moindres, parce que le référendum sur le TCE a laissé des traces, mais ces traces faut quand même relativiser. Vous vous rappelez, vous, que Laurent Fabius était sur la même position que Montebourg, appelé à voter non, mais ça l'a pas empêché d'être ministre des Affaires étrangères de François Hollande. Donc vous voyez, il y a ces traces, elles existent, mais enfin...
On se rappelle moins de Montebourg parce qu'à l'époque, il n'avait pas milité. Il était pour le non, mais il n'avait pas milité pour le non, vu que le oui l'avait emporté dans son parti.
En tout cas, il y a
ce clivage. Pour moi, il y a un bloc. Après, il y a un autre. Alors, il y a la question du revenu. Mais parce que je pense qu'à Mont, il pense à la gauche de dans 30 ans ou dans 40 ans, sauf qu'il y a une élection dans 4 mois. Donc, il a des idées qui peuvent être intéressantes. Je ne suis pas sûr qu'elles puissent être mises en œuvre dans les 4 mois ou 5 mois ou 6 mois qui viennent. Donc, mais cela dit, il y a une vraie cohérence, je pense, entre les 3, entre Peillon, Hamon et Montebourg. En revanche, Valls me semble très différent de ces trois-là. Très, très différent. Incarner une autre gauche. Une gauche dont, personnellement, moi, j'estime qu'elle est à la droite d'Emmanuel Macron, par exemple.
Est-ce qu'il n'y a pas quand même un clivage qui serait quand même extrêmement profond, enfin, moi, qui m'a semblé assez visible hier, qui consisterait à séparer les candidatures selon la vision qu'ils ont de la société à venir, et notamment de la place du travail dans la société à venir. On avait quand même une gauche, on va dire, industrieuse, représentée par Montebourg, aussi un peu par Peillon, enfin, c'est-à-dire de dire, voilà, attention, l'emploi, ça reste un combat, le plein emploi, on peut y arriver. Et puis de l'autre côté, ceux qui disent, attention, le travail se raréfie de plus en plus, il va falloir compter avec une société où il n'y a plus de croissance, et donc il faut complètement modifier notre façon d'aborder les choses. Est-ce que c'est pas quand même deux projets de société qui peuvent quand même sembler difficilement conciliables? Anastasia Colosimo, ensuite Brice Couturier. Anastasia.
Oui, et d'ailleurs, je trouve qu'on ne l'a pas assez dit, ça. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de débats sur les chiffres et on n'a pas assez dit, ce sont exactement ça, des modèles de société différents. C'est-à-dire que si on considère, par exemple, que nous rentrons aujourd'hui dans la stagnation séculaire, qu'il n'y aura plus de croissance, en fait, ça influe sur énormément de choix de politique publique.
Et le seul à en parler, c'est Benoît Hamon.
Oui, et à l'inverse, si on si
au Benhamias contraire... aussi.
Et...
Un peu quand même.
Oui. J'ai retenu que c'est
non, bêtises. Non, Benhamias aussi, c'est vrai. Au contraire, si on pense qu'il faut espérer un retour de la croissance et qu'elle va revenir, c'est encore d'autres choix de politique publique qui sont extrêmement différents. Et je trouve que ça, c'est un peu dommage. C'est qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de discussions assez techniques. On n'a pas assez donné, justement, de grandes idées. Mais pourquoi aussi? C'est parce que la réalité, c'est que même les économistes ne savent pas. Et même les économistes s'écharpent. Même cette question de stagnation séculaire ou, au contraire, de reprise de la croissance. Aujourd'hui, cette question est tellement incertaine et la réponse, surtout, est tellement incertaine que même pour tous ces politiciens, c'est difficile aussi de, d'avancer des pions.
On est loin, Brice Couturier, des débats qu'il pouvait y avoir sur est-ce qu'il faut une politique de l'offre ou une politique de la demande. Là, on est vraiment, non pas dans des outils économiques, mais dans des projets économiques, des projets de société.
Ouais, enfin, on est surtout complètement à côté de la plaque. Aucun des candidats n'a donné de réponse à la question pourquoi la France, et la France à peu près seule dans les grandes nations européennes développées, continue à avoir plus de 10% de chômage. Je rappelle qu'en Allemagne...
Ils sont un peu comptables du bilan, justement. C'est compliqué.
Oui, mais je rappelle qu'en Allemagne, donc l'idée de la fin du travail est une idée totalement absurde et obsolète. Dans beaucoup de grands pays comme l'Autriche, l'Allemagne, la Suisse, même la République tchèque, on est très en dessous des 5% de chômeurs. Nous, on est autour de 11%, ce qui est délirant. Alors, là, évidemment, la solution à la Hamon, c'est de dire d'en prendre acte. Et le chômage, c'est définitif. Maintenant, on va essayer de payer les gens pour rester chez eux. C'est vraiment dramatique. C'est une idée de... Je ne comprends pas quelqu'un qui se réclame du socialisme et du mouvement ouvrier en arrive à dévaluer à ce point la dignité qu'on peut trouver dans son travail et à se résigner à cet état de fait. En réalité, l'économie française est extraordinairement malade. Aucun des candidats en place ne nous... propose les solutions qui pourraient sortir de ce déficit de compétitivité, par exemple, qui fait que notre commerce extérieur se dégrade de plus en plus chaque année par rapport à nos concurrents européens. Se résigner, en plus, alors c'est surréaliste, expliquer que ça doit coûter entre 300 et 400 milliards de payer les chômeurs à rester chez eux, quand on sait que le budget de l'État est précisément situé entre 300 et 400 milliards, c'est-à-dire qu'il faudrait donc doubler le budget de l'État, si on comprend bien, pour entretenir chez eux, de manière encore une fois extraordinairement humiliante, des gens dont on a résolu d'une fois pour toutes pour lesquels on ne trouverait jamais d'emploi.
Vous avez quand même François de Rugy qui a fait un petit rappel à l'ordre justement sur cette question du respect de la
discipline budgétaire.
Sylvain Bourmeau.
Oui, cette question du travail, j'ai l'impression que Benoît Hamon pointe quelque chose, pointe une tendance, une évolution à très long terme de nos sociétés, mais il y a un problème d'échelle, au fond. Il y a un problème de temporalité. Il est en train de faire de la prospective politique. Et je pense que c'est très important de faire de la prospective politique. C'est très important de penser à horizon 30 ans, 40 ans.
C'est un joli débat. Parce que c'est ce qu'on reproche beaucoup, justement, aux politiques. C'est en général de pas suffisamment se projeter dans l'avenir.
Il a raison, mais encore une fois, il y a des problèmes urgents, à commencer par celui de l'emploi. Et on ne peut pas, pour répondre à ce problème urgent de l'emploi, qui a des conséquences sociales dramatiques dans notre pays depuis maintenant des dizaines d'années, pointer l'horizon dans 40 ans. C'est pas possible. C'est-à-dire, je pense qu'il faut faire les deux. Il faut pointer l'horizon dans 40 ans, mais il faut aussi avoir les solutions des politiques à mettre en œuvre immédiatement, ce à quoi se sont attelés tous les autres. Parce qu'au fond, il n'y a que Benamias qui est d'accord avec Hamon sur cette histoire du revenu universel. Il n'y a que lui à être un peu utopiste comme ça. C'est pas une critique. C'est-à-dire, c'est très bien d'être utopiste. C'est très bien d'être dans cette temporalité-là. Mais on ne peut pas ne faire que ça. Et je pense que c'est là la grande erreur. On ne peut pas non plus ne faire que... comme si il n'y avait soit d'un côté l'industrie et l'emploi industriel, soit de l'autre pas d'emploi, pas de travail et donc un revenu universel. Il y a des manières de créer de l'emploi parce que nos économies ont changé. J'observe quand même une inflexion dans le discours d'Arnaud Montebourg ces derniers mois. Avec une prise en compte notamment de la dimension environnementale et de l'écologie comme un levier de création d'emplois et de croissance. Et là, on retrouve par exemple les solutions proposées par un économiste comme Philippe Askenazy qui dit aujourd'hui, pour créer de l'emploi, c'est du côté des services à la personne, de l'éducation, des services du care, en gros, de l'économie du care et de l'environnement. Et il y a beaucoup de choses à faire en matière environnementale qui sont des gisements d'emploi. C'est pas de l'industrie et c'est pas non plus de l'absence d'emploi.
Donc finalement, il n'y a peut-être pas tant d'incompatibilité que ça, selon qu'on se situe à un horizon proche ou à un horizon un peu plus lointain. Devic Piétenu.
Moi, j'ai pas l'impression, en entendant Benoît Hamon, qu'il va nous verser un revenu universel comme solde de tout compte. J'ai plutôt le sentiment ça, c'est une très belle idée. Parler de la fin de la croissance, c'est une belle réflexion aussi. Et je suis pas trop d'accord avec Brice quand il dit qu'il ne parle pas de l'emploi, parce qu'il apporte quand même des solutions. Il parle d'une forme de New Deal un peu rooseveltien, comme le font aussi Vincent Peillon ou Arnaud Montebourg. Donc ils sont sur un plan de relance massif Quand je dis massif, c'est pas voilà.
Et les trois sont d'accord là-dessus.
Milliards, les trois sont d'accord là-dessus. Donc ça, c'est une idée déjà pour relancer, en relançant l'investissement, offrir des emplois. Quand vous parlez du CARE, Sylvain, Benoît Hamon est un des seuls quasiment parmi les sept à proposer l'économie sociale et solidaire, à parler d'économie sociale et solidaire. Donc
Montebourg a utilisé l'expression hier aussi.
Hier, c'est vrai. Et je crois que Payon aussi de temps en temps aborde ce dossier-là. Mais bon, voilà, vous voyez, il y a encore des pistes de réflexion qui sont proposées pour lutter contre le chômage.
Anastasia Colosimo.
J'ai envie de revenir là-dessus. C'est vrai que c'est un problème de long terme. Quand on parle de raréfaction du travail, qui est quand même ce qui inquiète tout le monde et ce qui est la grande question économique par rapport au chômage et à l'emploi. Cette raréfaction du travail, on sait très bien qu'elle n'est pas certaine. C'est-à-dire que là, Hamon donnait des chiffres hier en disant il va y avoir une suppression de 10% d'emplois. La réalité, c'est que tant que ces emplois n'ont pas été supprimés, tant qu'on ne sait pas quels sont les autres emplois qui vont être créés, c'est de la prospective. C'est de la prospective sur 40 ans, effectivement. Et là, je rejoins tout à fait Sylvain Bonbon, et donc du coup, tout ça est bien sympathique, mais nous, ce qu'on veut, c'est le quinquennat qui vient, puisque c'est là qu'il va être jugé, et c'est là, maintenant, qu'on a besoin de solutions.
Donc voilà, c'est peut-être un petit peu tôt pour avoir ces horizons-là. Et puis cela dit, il y a encore deux débats, il ne faut pas l'oublier, presque couturier. C'est-à-dire que, effectivement, enfin, je reviens aussi un peu à la forme de l'exercice qui est extrêmement contraint, qui oblige à égrener les sujets, parce que là, on parle beaucoup du travail qui était dans la première partie, qui structurait, on va dire, le débat de la première partie et qui me semblait être le plus intéressant. Mais il a aussi été question de la santé, de la protection sociale, sécurité sociale, de la sécurité, la question des institutions qui a été peut-être un petit peu vite balayé quand on connaît en plus les propositions qui peuvent être celles de cette gauche là. Donc peut-être que ça, on peut quand même donner une petite chance à cette primaire de gauche, Brice Couturier, pour au moins essayer de clarifier aujourd'hui ce que ça veut dire qu'un projet porté par la gauche, non ?
Écoutez, quand on en est à dire qu'effectivement la solution c'est la relance par la consommation dans un pays où la relance en question a déjà coûté, la dette publique s'élève à 100% du PIB, c'est qu'on n'est pas sérieux. Et on n'est pas sérieux quand on pense qu'on ne va pas gagner, quand on pense qu'on ne va pas à la présidentielle, mais encore une fois quand on pense qu'on est en train d'agiter un congrès du Parti Socialiste et que donc on se fait élire.
François Hollande a dit la même chose, ça ne l'a pas empêché d'être élu en 2012.
Oui, enfin là on a des sondages qui nous donnent entre 5 et 6% pour Hamon et Montebourg et 10% pour Valls. Donc on est très 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 loin des scores que faisait François Hollande dans les sondages à l'avance. Moi je voudrais vous citer un article de Bruno Roger Petit qu'il a publié aujourd'hui même dans Challenge qui dit la chose suivante. On est en train de se retourner contre... Attendez.
Alors, où est la citation que vous avez
en l'état, en l'état de l'opinion et vu de gauche, ce n'est plus la candidature Macron qui parasite celle du socialiste, c'est la candidature socialiste qui parasite celle de Macron. Et il envisage, d'ailleurs, il donne la parole
de rejoindre l'équipe d'Emmanuel Macron comme notre journaliste.
Non,
comme challenge.
Il pense effectivement que le PS aura tout intérêt à participer à la construction d'une majorité présidentielle qui se fera autour d'Emmanuel Macron, puisque lui-même, lui, il est à entre 15 et 20% des sondages, alors que les candidats qui sortiront de cette primaire, on le sait d'avance, ne peuvent pas concourir à la présidentielle.
Non mais cela dit, c'est intéressant cette citation que vous faites, Brice Couturier, parce que...
Ça montre que je ne suis pas tout à fait tout seul de mon avis.
Non, à la limite, peu importe qu'elle soit vraie ou qu'elle soit fausse, mais qu'on en soit amené à envisager qu'une candidature extérieure de quelqu'un qui n'est pas vraiment de gauche et qui pourrait...
qui peut être élu.
Et que le candidat issu du Parti Socialiste ne serait plus le candidat, disons, qui représenterait de manière la plus légitime la gauche. Mais c'est quand même...
On va faire un exercice. Puisque Brice Couturier accorde autant d'importance au sondage, au point qu'on pourrait imaginer d'arrêter là la campagne, de déclarer vainqueur ceux qui arrivent en tête, etc.
Ça lui ferait des vacances, j'ai l'impression.
Prenons au sérieux cette position. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oui, il est possible que Emmanuel Macron fasse un bon troisième. En gros, c'est ça que nous disent
peut-être
les sondages.
Peut-être même un bon deuxième.
Il faut prendre les sondages ou faut pas prendre les sondages? Si on prend les sondages, ce que parvient à faire Macron, c'est à faire en sorte que la gauche ne soit pas au deuxième tour. Et il partage la responsabilité en cela avec Mélenchon et avec le Parti Socialiste.
Je vous retourne l'argument, c'est cette primaire qui est en trop.
Sauf que il y a une différence, c'est que le Parti Socialiste, en s'ouvrant même à d'autres partis, présente un candidat, c'est dans la logique des institutions. Que quelqu'un sorte du chapeau comme ça et se présente et vienne troubler le jeu, c'est quelque chose de assurément nouveau, parce que jusqu'à présent...
tout le monde s'accordait pour dire que c'était impossible de faire un bon score dans une élection présidentielle si on ne s'appuyait
mais
pas.
Mais l'électorat est très en colère. L'électorat est très en colère. Politique. Il a envie de renverser la table.
Il n'y a pas que l'électorat. Il y a peut-être aussi une fraction.
La situation de du pays.
Une fraction des élites du pouvoir. Politique, mais surtout économique, administratif, qui a envie de remettre en question l'autonomie du politique dans notre pays.
Anastasia Colosimo.
Bon, ensuite, je pense qu'il y a vraiment une crise au sein du Parti Socialiste, comme il y a eu des crises au sein de l'UMP, comme il y aura sans doute peut-être bientôt des crises au sein des Républicains. C'est un moment de crise au sein du Parti Socialiste. Je pense que ce moment de crise, il est très lié à ce que François Hollande a fait et un peu au déluge qui laisse derrière lui. C'est aussi très lié. Alors moi, je vous avoue que j'ai même pas eu le courage de regarder, mais là, sur les 7 candidats, il y a 3 candidats qui ont fait scission par rapport à des partis par rapport au Parti Les Verts. Donc déjà, rien que le morcellement parmi les Verts, c'est déjà des polémiques en piste byzantines. Enfin, on ne comprend pas pourquoi ils ne sont pas d'accord, on ne sait pas. Ils sortent, ils rejoignent les Verts, ils reviennent au Parti Socialiste. Au sein même du Parti Socialiste, effectivement, on a 3 candidats qui ont co-signé un livre il y a 10 ans.
C'est tout.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que tout ça donne l'impression, effectivement, d'un parti qui est en crise et ça ne fait pas très envie.
Alors, Ludovic Piétenu, vous qui suivez particulièrement la gauche à la rédaction de France Culture, dont je rappelle vous êtes le directeur du service politique, oula, n'oublions pas de le rappeler. Plus sérieusement, évidemment, aujourd'hui, dans le discours officiel, on va dire, à gauche, et en tout cas chez les participants à cette primaire, il n'est pas question de dire qu'on envisage, je ne sais pas moi, une alliance ou de se retirer au profit d'un Jean-Luc Mélenchon ou d'un Emmanuel Macron. Mais en tout cas, est-ce que c'est forcément une question qui les obsède, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait une fois que le candidat à la primaire aura été désigné, qu'est-ce qu'on fait avec les deux autres? Comment est-ce que c'est quelque chose qui est extrêmement présent, on va dire, dans la réflexion au PS?
C'est extrêmement présent. C'est François de Rugy, qu'on recevait ce midi dans le journal de Midi et Demi, nous disait en sortant off dans le couloir de la maison de la radio, nous disait.
Si vous avez le droit de le dire, alors
on va le dire. Si, monsieur, c'est fait pour ça.
Que les journalistes politiques soient des vrais journalistes qui donnent les informations.
Oui.
Vous avez le feu vert de Sylvain.
Évidemment, François de Rugy nous disait évidemment que cette question-là est au cœur du sujet. Alors évidemment, personne va le dire très ouvertement avant le 29 janvier. Tout le monde va tenter sa chance. C'est une primaire. Sinon, à quoi bon concourir? Mais évidemment, par exemple, Benoît Hamon l'a dit dès hier soir. Moi, j'irai discuter. J'aurai mandat, etc. Après, quand il dit j'aurai mandat, c'est qu'il sous-entend qu'il espère 3 millions, ou, enfin 2 millions, 2 millions et demi, 3 millions de votants et que ça lui donne une force. Comme disait Brice, l'élection présidentielle, toute élection est question de dynamique. Et j'ai envie de retourner l'argument à Brice, s'il le voit troisième, Macron, si tout est question de dynamique, tu dis il peut être deuxième, mais pourquoi pas premier à ce compte-là? Si tout est question de dynamique, pourquoi s'arrêterait-il à la deuxième place?
Ce n'est pas exclu. Ce n'est pas exclu. En tous les cas, la dynamique électorale montre effectivement une montée en puissance du phénomène Macron, alors qu'on ne voit pas le même phénomène du côté
des
candidats de la primaire.
Et donc ça peut aussi advenir aux candidats
absolument,
socialistes.
On aura même mieux que ça, parce que d'un côté, on continuera d'avoir des sondages, on continuera d'avoir des images très fortes, comme ce meeting à la porte de Versailles, à Paris, ou d'autres. Et puis en face, on aura le chiffre objectif, peut-être 3 millions de votants à la primaire socialiste. Donc on peut penser que, au pire, pour le gagnant, 51% de ces 3 millions auront voté pour lui. C'est-à-dire une mobilisation, une pré-mobilisation électorale, quand même très forte. Donc, on ne peut pas, comme d'un revers de main, balayer un million et demi, 2 millions d'électeurs qui se seront déplacés pour choisir ce candidat et faire comme si ce n'était pas important parce que le Parti Socialiste s'est terminé. Enfin, c'est un discours qui...
Ce qui est sûr, c'est que le gagnant de cette primaire... selon qui gagnera cette primaire, si vous prenez par exemple Montebourg, vous allez avoir des wagons et des wagons entiers direction le QG d'Emmanuel Macron dans le 15e arrondissement pour se rallier. C'est une évidence.
Mais même chose si c'est X ou Y. Enfin, je veux dire, ce sera le même phénomène si c'est Benoît Hamon.
Et si c'est Valls qui sort, est-ce que vous croyez vraiment que les frondeurs vont voter pour lui?
Oui.
Mais même Valls, dans tous les cas de figure. Mais simplement,
ils
ça,
passé, ils ont passé tout le quinquennat à
le non, mais franchement, moi, j'ai lu. On a parlé des Hidalgo la dernière fois. Moi, j'ai lu l'interview. Enfin, c'est ahurissant. Enfin,
au quand. Monde,
non, mais c'est ahurissant comment ils parlent les uns des autres.
Tout le monde en prend pour son grade avec elle.
Ah oui, mais comment les gens parlent les uns des autres au sein d'un même parti. En fait, de voir tout ça, c'est absolument.
À ce sujet d'ailleurs, tiens, vous, Anastasia Colosimo, qui il y a quelques temps, vous nous faisiez part de votre stupéfaction, voire davantage. À propos de la façon dont on s'adressait aux personnages politiques et notamment à ceux qui sont plus haut de l'État. Bon, hier, je me suis fait la réflexion, hier, en repensant à ce que vous disiez, et si François Hollande s'était retrouvé dans ce débat de la primaire, qu'est-ce que ça aurait donné? Ça me paraissait totalement inimaginable. Et vous, Anastasia Colosimo?
Mais non, mais non seulement c'est inimaginable, mais c'était pas souhaitable. Enfin, franchement, moi, j'ai pas beaucoup. Je porte pas François Hollande dans mon cœur. J'aurais pas voulu que mon président se fasse agresser par Martichoux à 21h le soir, alors que je suis devant ma télé.
Enfin, je trouve qu'il y a des.
Je trouve qu'il y a des limites à la décence. Je trouve vraiment qu'il y a des limites à la décence. Et d'ailleurs, je suis très contente que vous parliez de ça parce que il y a plusieurs questions plus globales autour de ces primaires. Premièrement, l'existence de la primaire. Que je trouve franchement discutable, mais ces débats télévisuels sont catastrophiques. Le temps de parole qui est donné, la manière dont les journalistes, les politiciens commencent une phrase, la journaliste est déjà en train de lui faire des bruits comme ça pour lui dire stop, stop, il faut s'arrêter, vous avez vraiment qu'une minute pour donner votre politique sur la santé.
Chaque vendredi, il y en a une petite couche contre les journalistes. Est-ce qu'on va en rajouter une cette semaine, Brice Couturier ?
Ah non, il y en a un que je vais faire le portrait, c'est Gilles Boulot, parce qu'il a posé la seule bonne question. C'est pour éviter l'élimination de la gauche dès le premier tour de la présidentielle, seriez-vous prêt à vous effacer devant Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron? C'était la seule vraie question à poser.
Oui, mais sauf qu'il faut préciser, Brice, que pourquoi pas poser cette question, mais exiger des candidats qu'ils répondent par oui ou par non, c'est proprement inadmissible.
Et au début, quand il fallait donner juste un mot.
Inadmissible, parce que
vous avez vu
voilà,
ce
sont les mêmes types de formats, c'est-à-dire c'est des formats dont ils s'imaginent que c'est ce qui va permettre de faire une bonne audience, probablement.
Enfin, les candidats ne découvrent pas non plus la façon dont ça va être
donné. Mais c'est inadmissible, c'est parce que ça renvoie un rapport à la politique. On se plaint, à juste titre, que la politique est déconsidérée, mais elle est déconsidérée par ce type de questionnement imposé à des responsables politiques. C'est inadmissible.
Une petite coulisse organisationnelle. TF1 avait promis, RTL, TF1, RTL et l'Obs avaient promis aux 7 candidats qu'il n'y aurait pas de questions de politique politicienne. On restera sur le fond, promis.
Non mais ce débat, il a commencé par le fait qu'on a demandé aux candidats de donner un mot pour définir, pour parler du bilan du quinquennat de François Hollande. Un mot. Et alors quand...
Aucun n'a répondu en un seul mot.
Hein. Ah si, si, Valls, vous n'avez pas vu ce moment formidable où elle n'a pas fini sa question, qu'elle a dit fierté. Mais en tout cas, c'est ahurissant parce que, évidemment, il faut au moins faire 5 ou 6 phrases si on veut qualifier le bilan d'un quinquennat.
Jacques Derrida, est-ce que je peux faire plus qu'une phrase?
Non, et donc là, on est dans une situation absurde où il essaye de s'exprimer en essayant effectivement de donner un avis plutôt nuancé et plutôt complexe. Et là, les journalistes vraiment leur crient dessus en disant non, on a dit un mot.
C'est pas
alors
très
là,
France
la
Culture,
métaphore...
un mot.
Hein. Non, là, la métaphore
scolaire...
C'est vrai
que nous, ça nous choque.
Et vous en êtes la preuve, chaque vendredi, hein, d'ailleurs, dans vos interventions.
Oui, vous commencez à nous censurer un peu.
Est-ce que vous allez tous être devant votre poste de télévision ou de radio dimanche? Alors dimanche, je crois que c'est BFM, ITL et RMC qui retransmettent le deuxième débat. On peut s'attendre à ce qu'une fois que les choses ont été posées, comme vous le disiez en début de cette émission, Ludovic Piétenu, on arrive peut-être un petit peu davantage dans le fond des divergences qui existent entre les 7.
Très bonne question, Hervé.
Merci.
Comme c'est organisé par des chaînes info et que les chaînes info aiment bien les choses qui s'énoncent clairement et rapidement, je doute qu'on ait un peu plus d'éléments de réflexion, je l'espère.
Enfin, on leur impose pas non plus totalement la forme.
Je vous donne une coulisse. Ce qui a été demandé aux candidats,
quand même, non ?
Ça a été envoyé cet après-midi. Les chaînes ont demandé aux candidats que l'on parte de cas particuliers, de faits divers, du type la tempête hivernale, pour élargir au dérèglement climatique. Une tempête hivernale n'a
Attendez,
pas grand-chose à voir.
Ça a été envoyé par qui, ça ?
C'est BFM, ITL, qui demande ça aux 7 candidats.
Parce qu'il y a un flash météo au milieu du débat, non ?
Et le débat devrait commencer par cette histoire de tempête hivernale pour concerner les gens, parce que voilà, c'est ça aussi le délire des chaînes info.
Ah ouais, ça c'est quand même assez incroyable. Bon bah écoutez, merci, vous nous avez peut-être donné envie justement de regarder le deuxième pour
il
voir ce que ça peut donner.
Question d'Europe, d'immigration et de sécurité aussi.
Merci en tout cas à tous les 4, Ludovic Piétenu, Anastasia Colosimo, Brice Couturier et Sylvain Bourmeau. On peut réécouter, comme chaque semaine, cette discussion sur notre site franceculture.fr, à la page du Grain à Moudre. Merci à l'équipe du Grain, Céline Leclerc, Mélanie Chalandon, Fanny Richer, Cyril Baer, émission réalisée par Jean-Christophe Francis, avec à la prise de son Anthony Thomasson. On se retrouve lundi à 18h20 pour poser la question suivante. L'héritage est-il injuste? Nous aurons parmi nos invités une candidate à l'élection présidentielle. On n'en entend pas souvent parler, Nathalie Arthaud. Elle ne sera pas seule, vous verrez bien. Ça, ce sera donc pour lundi. Dans un instant, ping-pong avec Mathilde Serrel et Martin Kénéen. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir Hervé.
Bonsoir Hervé. Ce soir, vous voulez connaître le sommaire?
Oui.
Ce soir, nous irons à la fois en Argentine et en Algérie avec deux romans traversés par l'exil.
Avec Mazarine Pinjot qui signe Théa, son nouveau roman chez Julliard.
Et Laura Alcoba et la danse de l'araignée, cinquième roman chez Gallimard.
Et nous aurons un live de Aïda et Babak qui composent avec leurs acolytes de la musique actuelle persane.
Merci à tous les deux, on vous retrouve dans un instant juste après le rappel des titres.